C'est toute la messe. Voilà. Alors c'est un peu difficile. Je sais pas s'il y a besoin du micro. Si, je sais pas. Bon, on va le mettre. C'est un peu difficile parce qu'il y aurait tellement de choses à dire qu'en fait, on pourrait y passer plusieurs heures. Voilà. Donc je vais essayer à chaque fois de survoler, en tout cas de donner, puis essayer de dire aussi des choses un peu, peut-être un peu moins connues. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de mieux comprendre la messe avec notre intelligence pour mieux y participer avec toute notre personne et aimer davantage le Seigneur. Et donc c'est vraiment cette participation active auquel le Concile et toute l'Église nous demande de vivre. Il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie, disait Saint Jean-Marie Vianney. Donc c'est vraiment le cœur de la foi, tout est contenu, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Alors, quelques petits repères pour vous dire qu'en fait l'espace liturgique est organisé avec un certain nombre de lieux. Voilà, dans l'église, j'aurais dû mettre un E minuscule. Là, je l'ai mis en majuscule, mais en fait, c'est le bâtiment et donc ça prend une minuscule. Il y a tout d'abord la nef, c'est-à-dire là où il y a les fidèles. C'est le même mot que dans navire. Vous voyez, c'est comme une coque inversée. C'est là où eh bien, nous sommes dans la barque avec le Seigneur qui est le grand timonier. Et puis, l'autre partie structurante, c'est le chœur de l'église avec un H. C'est là où on chante, la chorale, le chœur. Donc c'est là où se tiennent les prêtres et le ministre, différents ministres qui interviennent. C'est pas le ministre qu'on élit, mais c'est le ministre ordonné. Voilà. Le tabernacle que l'on reconnaît à la petite lampe rouge, ici à la chapelle des Apparitions, il a une forme de cœur. Voilà. Donc c'est là, tabernacle, ça vient du mot latin tabernaculum. Tabernaculum, c'est la tente. Parce que dans le désert, il y avait la tente de la présence et c'est là où se tenait présent le Seigneur. Voilà. Et quand le peuple bougeait, on démontait la tente et on la replantait ailleurs, et le Seigneur accompagnait le peuple dans sa pérégrination. Oui. Alors le tabernacle, c'est la tente de la présence. Et puis cette lumière rouge qui signifie la présence du Seigneur, comme dans la synagogue où il y a sept lumières pour dire qu'il y a la Torah. Voilà. Eh bien, nous n'avons plus la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, mais nous avons le Verbe qui s'est fait chair, pas seulement la parole de Dieu, mais la parole qui s'est fait chair dans l'Eucharistie, c'est le Seigneur qui est présent. Et puis la croix, voilà, qui nous rappelle que nous sommes au pied de la croix à chaque Eucharistie. Alors, à la chapelle de la Visitation, il y a une petite croix sur l'autel pour le prêtre, mais sinon, c'est la croix telle que Jésus est apparu à Paray-le-Monial, c'est-à-dire à la place des cinq plaies, cinq soleils éclatants de lumière. L'autel, voilà, qui est en fait le centre de l'Eucharistie, c'est pour ça que quand on traverse l'église et qu'on passe devant l'autel, en fait, on salue toujours l'autel, on s'arrête, on fait une inclinaison et on continue notre trajet. On ne passe pas devant comme si on passait devant un étalage de fruits et légumes. Vous voyez, on prend le temps de saluer l'autel, c'est le centre de la liturgie. Alors au début, s'il y a le tabernacle, on le salue. On salue le tabernacle en se mettant en faisant un génuflexion. Mais sinon, pendant toute la messe, c'est vraiment le cœur, il représente le Christ qui est le rocher, notre roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. L'autel, normalement, est inamovible, on ne peut pas le bouger. C'est en même temps le symbole du sacrifice, puisqu'on offre le sacrifice sur l'autel, et puis c'est aussi le symbole de la table des noces de l'agneau. Hein, tu prépares devant moi une table et un festin. Vous voyez, c'est en même temps la dimension sacrificielle, la dimension festive et de communion avec Dieu et avec les frères. Lambon, qui veut dire un lieu prééminent, qui est le lieu où on proclame la parole et l'évangile notamment. Donc voilà, il y a la table de la parole et la table de l'autel, vous voyez, qui se répondent l'un à l'autre et qui vont structurer profondément la liturgie. Pour reprendre un petit peu les pèlerins d'Emmaüs que nous avons entendus hier, il y a toute cette longue marche où Jésus explique la parole et puis après il s'arrête, il rentre dans l'auberge et il partage le repas, ils le reconnaissent à la fraction du pain. Et donc il y a ces deux liturgies fondamentales où nous rencontrons le Seigneur. Dans la messe, il y a donc quatre parties, plus deux, plus une. Donc ça fait cinq en fait. Les deux parties principales, je viens de les nommer. C'est la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Elle est précédée de rites initiaux et termine par des rites finaux. Donc les rites finaux, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et les rites finaux. Et en fait, la liturgie eucharistique aboutit à une autre partie qui est le rite de la communion, que souvent on assimile à la liturgie eucharistique. Voilà. mais il y a le rite de la communion est une partie particulière de l'Eucharistie. Donc, les rites initiaux commencent par la procession d'entrée. Vous voyez, dans la liturgie, on aime bien marcher. J'ai évoqué le peuple qui marchait dans le désert. Eh bien, nous marchons pour aller jusqu'à l'église. Je vous rappelle que arriver à l'heure à la messe, c'est arriver en avance pour prendre le temps d'être bien assis, devant si possible. Comme ça vous permet de mieux participer. Voilà. Et puis, ça permet d'être là. Peut-être de lire les textes du jour, les lectures, le psaume, l'évangile, vous voyez, tout ça va aider à bien participer à l'Eucharistie. Et au moment de l'entrée, eh bien, la procession d'entrée avec le chant d'entrée, dont le but est en même temps de faire l'union des cœurs entre nous, c'est la force du chant. Vous voyez, le chant nous unit. D'ailleurs, parfois on a du mal à chanter ensemble parce qu'il y en a qui chantent trop vite, ou d'autres qui chantent trop fort, ou d'autres qui chantent trop lentement, ou d'autres qui ne chantent pas. Vous voyez, donc il s'agit de s'écouter pour chanter ensemble. C'est un exercice de conversion. Et c'est un exercice spirituel, le chant. Et puis en même temps, ça nous ouvre à la présence du Seigneur, que l'on acclame. Et donc c'est le but du chant et de cette procession, c'est vraiment d'accueillir le Seigneur qui vient et puis de faire la communion entre nous, la double communion. Ensuite, le prêtre va s'approcher de l'autel et il va embrasser l'autel sur lequel il y a habituellement des reliques, c'est-à-dire des restes des saints. Et dans l'Église primitive, c'était particulièrement les martyrs. À l'origine, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'autel, et on célébrait la messe sur les tombeaux des martyrs, parce que celui qui a donné sa vie pour ses frères, c'est le Seigneur Jésus. Les martyrs imitent le don qu'il a fait de lui-même, et nous-mêmes, dans l'Eucharistie, eh bien, nous donnons notre vie et nous recevons le don que Jésus nous fait de sa vie. Voilà. Et nous mettons nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Et puis ça permet de bien rappeler que le centre de la liturgie, c'est l'autel. Ensuite vient le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous invoquons la Sainte Trinité. Demain, c'est la fête de la Trinité. Je reviendrai sur cette dimension trinitaire de la messe, c'est-à-dire que toute la messe, en fait, est une louange au Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On cite l'Évangile. Jésus dit à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc, dès les premiers mots, nous citons la Sainte Écriture. Voilà. « Amen » signifiant « je crois, j'adhère ». Voilà, c'est un mot hébreu. Il y a ensuite la salutation. Voilà. « Le Seigneur soit avec vous ». Il y a d'autres salutations. Probablement que demain, je prendrai la salutation qui évoque la Sainte Trinité. Non, je ne me souviens pas présentement, mais voilà. Donc, ça, de nouveau, pour souligner ce lien avec la Trinité. Et puis, il y a une réponse. En fait, toute la messe est construite sur un dialogue entre le célébrant et l'assemblée, mais à travers ce dialogue, c'est entre Dieu et son peuple. Il y a un dialogue, il y a une relation, il y a une alliance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà. Alors, il est bon d'ouvrir la bouche quand on parle, parce qu'il y en a. Ils parlent la bouche fermée. Ah, forcément, on ne les entend pas beaucoup. Mais oui, si tu arrives en retard, que tu te mets tout au fond, que tu ne chantes pas, que tu ne parles pas, que tu n'écoutes pas, forcément, la messe va te paraître un peu longue. Mais il s'agit de prendre part et de participer, sans hurler, mais ouais, et avec votre esprit. Vous voyez, on le dit avec notre bouche, on ouvre la bouche pour parler. Voilà. Donc que ce soit actif, on ne va pas regarder le prêtre faire ses trucs devant. Nous allons prendre part. Participer, c'est prendre part à ce qui se vit. Voilà. Et ensuite, eh bien, toujours, nous avons confiance que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu, que sans lui, nous ne pouvons rien, et nous demandons pardon parce que nous avons péché. Et nous reprenons de nouveau les mots de l'Écriture, là c'est le cri de l'aveugle, qui crie vers le Seigneur, « Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié », ce sont des mots grecs, ce n'est pas du latin, parce que les premières messes étaient célébrées en grec. Et donc, on garde un vestige, il y en a d'autres, mais c'est le principal, un des vestiges de la liturgie grecque que nous gardons dans la liturgie latine, parce que nous célébrons la liturgie latine, eh bien, c'est justement ce Kyrie eleison. Seigneur, Kyrie, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Voilà. Christe eleison. Vous voyez, c'est un cri, en fait. Alors, on le chante, mais on pourrait le crier. Seigneur, aie pitié de moi. Nous n'allons pas à la messe parce que nous sommes bien, nous allons à la messe parce que nous ne le sommes pas et que nous avons justement besoin que le Seigneur nous purifie et nous pardonne. La communion n'est pas une récompense parce que nous avons mérité devant Dieu par nos bonnes actions. Nous ne communions pas parce que nous le méritons, mais parce que nous en avons besoin. Et que c'est parce que nous sommes pécheurs que le Seigneur se laisse approcher de nous et s'approche de nous pour nous purifier. Ensuite vient la formule d'absolution, c'est-à-dire de pardon des péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est une absolution. Alors, ce n'est pas le sacrement de la confession, mais c'est vraiment, nous recevons le pardon des péchés, des fautes vénielles, c'est-à-dire non pas des péchés mortels, mais les petites fautes de la vie quotidienne. Eh bien, le sacrifice du Christ nous lave de tout péché et nous entrons, vous voyez, dans cette purification. Cette dimension de la purification, elle revient tout au long de la messe, soit par l'assemblée, soit le prêtre à voix basse. Il y a un certain nombre de prières à voix basse, ce qu'on appelle des secrètes, non pas parce que vous ne pourriez pas les connaître, parce que c'est dans le missel, donc tout le monde peut les voir, mais parce qu'elles sont dites à voix basse, qui sont toujours des paroles de purification. Par exemple, avant d'aller proclamer l'évangile, le prêtre s'incline devant l'autel et dit à voix basse, purifie mon cœur et mes lèvres pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle du salut. Vous voyez, donc toujours cette conscience qu'avant de s'approcher de Dieu ou d'agir au nom de Dieu ou d'agir avec Dieu ou pour Dieu, eh bien, nous avons besoin que lui nous purifie. Et ensuite, nous entrons dans la louange. Le chant d'entrée a pu être un chant de louange. Et là, nous reprenons le chant du Gloria, qui est du 3e siècle, qui reprend ces paroles du 4e, qui reprend le chant des anges la nuit de Noël, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà. » Et donc, la louange, vous voyez, c'est pas triste la louange. Vous voyez, on peut exprimer notre joie et que le chant aussi corresponde à ce que l'on chante, qui est un chant de glorification. « Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. » Oui, c'est juste un débordement du cœur parce que Dieu est bon et que nous le louons. Voilà. La dimension de la louange aussi se fait partie des grandes dimensions. J'ai parlé de la purification, de la Trinité, de la présence de l'Écriture sainte. La louange, vous voyez, il y a des dimensions profondes qui traversent toute l'Eucharistie. D'ailleurs, le mot Eucharistie signifie action de grâce. Oui, c'est un chant de louange. Et dans la Bible, les Juifs, quand ils louent, eh bien, ils ne louent pas les mains jointes. Tous les peuples battaient des mains. Vous voyez, donc on peut taper dans les mains. Le Seigneur nous a donné un corps et cela peut s'exprimer dans la liturgie. Ce n'est pas un manque de respect envers le Créateur que d'utiliser le corps qu'il nous a donné pour le louer, puisqu'il nous demande, vous voyez, danser de joie pour lui, chanter un chant nouveau. Tous les peuples battaient des mains, élever les mains. Vous voyez, ce sont des paroles de la Bible. Nous entrons dans la prière juive. C'est aussi une des dimensions fondamentales de l'Eucharistie. Alors parfois, on est plus ou moins coincé. Eh bien, on va demander au Seigneur qu'il nous décoince. Et puis la louange que l'on vit en dehors de la messe, elle aboutit à la louange de la messe. Vous voyez, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et donc, c'est la source et le sommet de la louange. Ouais. Et que nous puissions donc louer le Seigneur avec force et puissance. Voilà. Sans sortir de sa présence. Ce n'est pas parce que nous sommes joyeux que nous avons quitté la présence de Dieu. Bien au contraire. Ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas de l'excitation. C'est le Seigneur est là. Et cela suffit à faire ma joie, ou mieux, notre joie. Je reviendrai sur cette dimension communautaire qui apparaît d'ailleurs par le fait que le prêtre dit « prions le Seigneur ». Et donc, prions le Seigneur, que devons-nous faire à ce moment-là? Eh bien, prier le Seigneur, puisque c'est justement l'invitation qui nous est faite. Parfois, prions le Seigneur, et je ne sais pas ce qui se passe. On commence, alors il y en a qui s'assoient, parce qu'ils sont fatigués. Il y en a d'autres qui commencent à regarder leurs chaussures, d'autres à penser à... Et en fait, nous quittons la prière. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier le Seigneur pour ceux que nous connaissons, ceux que nous aimons, ceux que nous avons du mal à aimer, pour la France qui en a bien besoin, pour les pays en guerre, pour les intentions que nous portons dans notre cœur, pour le reste de l'Assemblée. Et nous prions, c'est pour ça qu'il y a un temps de silence. Et ensuite, le prêtre va prier une prière que l'on appelle la collecte. Et c'est pour ça qu'il y a les mains étendues. C'est pour collecter vos prières et les présenter au Seigneur. Alors s'il n'y a pas de prière, lui, il ne va pas pouvoir les présenter. Et puis s'il n'y a pas le prêtre, elles ne vont pas pouvoir être présentées. Vous voyez, il y a besoin des deux sacerdoces. Ouais, c'est-à-dire ces deux présences du Christ. Parce que vous venez et vous allez offrir le sacrifice et vous allez présenter vos prières au Seigneur. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train de commenter le déroulé de la messe. Ça nous fait bien plaisir, vous soyez là. Et donc, petit à petit, là, on termine la première partie. Et donc, nous présentons ces prières. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, tu vas à la messe à 11h. Mais tu vas prier pour quoi? Pour qui? Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Ah, il y a des catholiques, c'est des catholiques de l'impeccabilité. C'est-à-dire que quand je suis à la messe, tout va bien. Donc forcément, je laisse mes problèmes à l'extérieur. Ben, ça se fait pas d'avoir des problèmes quand on est catholique. Bon, on est bien d'accord. Il faut bien paraître tout bien, parce que quand on va à la messe, c'est qu'on est tout bien. Tout le monde le sait. Mais comme nous ne le sommes pas, eh bien, nous allons utiliser toute notre énergie à camoufler nos problèmes pour paraître bien devant les hommes. Et nous n'avons rien compris, puisque c'est justement parce que nous sommes pécheurs que nous approchons de Dieu. C'est parce que nous sommes tordus, contradictoires, que nous sommes des lâches, que nous approchons de Dieu. Et c'est lui qui vient nous donner son courage, sa force, sa vérité, son espérance, sa charité. Bref, la procession d'entrée, le signe de croix, la salutation, le rite pénitentiel, le gloire à Dieu, l'oraison du jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, première partie. Toc. Et nous arrivons à la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, elle va être construite sur une forme dialogale. C'est-à-dire que Dieu parle et Dieu écoute. L'assemblée parle et l'assemblée écoute. Donc, que vas-tu dire à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas écouter le Seigneur avec tes frères? Parce qu'il se passe quelque chose. Quand nous participons à la messe, ces textes de la Bible que nous connaissons, nous les recevons différemment parce que nous les écoutons ensemble, par l'Esprit Saint qui nous a convoqués. C'est ça, l'Église. L'Ecclésia, Clésia c'est l'appel. Donc l'Ecclésia c'est l'appel hors d'eux, c'est la convocation. Nous sommes réunis par le Seigneur, non pas parce que nous apprécions ou que nous nous ressemblons, ou que nous n'avons pas le choix parce que s'il y avait un prêtre infidèle par messe, bah, ça irait pas, du coup il faut bien qu'on fasse un truc en groupe. Voilà, c'est un peu ça, la vie chrétienne, c'est un truc en groupe. Bah oui, parce que ce serait compliqué d'avoir une messe par fidèle. Donc du coup, on fait un package. Vous voyez, parfois, on vit un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est des individualités qui sont les unes à côté des autres et qui se tournent vers le même Dieu. C'est un sac de billes, quoi. Mais les billes, elles sont complètement extérieures les unes aux autres. Alors qu'en fait, nous sommes des grains de blé. Et qu'au cours de l'Eucharistie, nous allons être broyés par le Seigneur, nous allons être... Oint par lui, nous allons recevoir l'eau, nous allons cuire ensemble pour former un même pain. Et donc nous allons former une communion fraternelle. Et pour ça, il s'agit de nous recevoir les uns les autres et d'écouter la parole du Seigneur ensemble. Alors,
pour le dire simplement, je pense que vous pouvez m'entendre sans micro pour quelques instants, le dialogue est entre le Seigneur et les hommes. Quand je parle des hommes, bien évidemment, mais aujourd'hui il faut peut-être leur dire, c'est bien le genre humain et que le mot genre existe pour dire homme et femme. Voilà. Alors, le Seigneur va parler, c'est la première lecture. Voilà. Ça, c'est le début de la liturgie de la parole. Ensuite, l'homme va répondre, c'est le psaume responsoriel. Vous allez dire, hein? Est-ce quoi? Responsoriel. Vous ne sauriez pas français, vous sauriez parce que partout ailleurs dans le monde, ça s'appelle le psaume responsoriel. Sauf que nous, en France, on n'aime pas parce qu'on trouve ça un peu compliqué, donc on a enlevé le mot, c'est le psaume de réponse. Le psaume est toujours une réponse à la première lecture. Pratiquement toujours. Donc le psaume, qui est aussi la parole de Dieu, mais qui est une réponse à ce que nous venons d'entendre. Ensuite, il y a la deuxième lecture. Ça, c'est le dimanche. Aujourd'hui, il n'y en aura pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi et que samedi, ce n'est pas dimanche. Mais sinon, il y a la deuxième lecture. Et ensuite, on va acclamer le Seigneur en le louant. De nouveau, la dimension de la louange, l'Alléluia. Alléluia, louez, y'a Dieu, comme dans Yahvé. Alléluia, louez Dieu. Parfois, il y a des chrétiens qui vont à la messe pendant 50 ans. Quand on leur demande Alléluia, ça veut dire quoi? En fait, ils ne savent même pas. C'est pas très grave. Hein. En fait, quand même, c'est un petit peu dommage de prier le Seigneur pendant 50 ans sans savoir le sens des mots qu'on utilise. Ensuite, la proclamation de l'Évangile, qui est le cœur de la liturgie de la parole, j'y reviendrai. Et puis, l'homélie, qui va nous rendre actuelle la parole que nous écoutons. La plus belle des homélies, elle fait une phrase, c'est Jésus qui l'a prononcée dans la synagogue de Nazareth, « Cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. » C'est ça en fait l'homélie, c'est de dire que ce que nous avons écouté, en fait, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. C'est aujourd'hui que le Christ monte au ciel, c'est aujourd'hui qu'il y a la Pentecôte, c'est aujourd'hui Ensuite, eh bien, nous allons entrer dans le temps de l'Église. Le temps de l'Église, eh bien, nous accueillons la parole de Dieu, non seulement l'Écriture sainte, le texte biblique, mais qui devient parole lorsque c'est proclamé, mais aussi la tradition de l'Église avec le credo. Le mot credo signifie « je crois » en latin. Et donc la plupart des prières chrétiennes ont pour nom les premiers mots de cette prière. Par exemple, le Notre Père commence par « Notre Père ». « Je vous salue Marie » commence par « Je vous salue Marie ». Le Salve Regina par le Salve Regina. Le credo par credo. Le Gloria par Gloria. Oui, en fait, c'est comme ça, c'est pas très original, mais bon, on a pu appeler ça différemment. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, credo, je crois, vous voyez. Et là, je ne vais pas choisir les mots pour m'adresser à Dieu, exprimer ma foi. Je vais les recevoir de l'Église. Et ce n'est pas moi qui me donne ma foi moi-même. Je la reçois de Dieu par l'Église, parce que c'est le moyen qu'il m'a donné pour venir à moi et pour que j'aille à lui. Et ensuite, eh bien, nous allons présenter à Dieu nos prières. C'est la prière Veni Lexem. Et donc, vous voyez qu'il y a comme un cheminement spirituel, un dialogue entre le Seigneur et l'homme tout au long de la liturgie, de la parole. Et du coup, c'est rythmé. Alors, le cœur, c'est l'Évangile. Ce que je vais dire vaut pour le dimanche, mais pas pour la semaine. Habituellement, le dimanche, mais pas pour la semaine. Parce qu'il peut y avoir des exceptions. Mais globalement, pour le temps ordinaire, ça marche. La première lecture, elle est toujours de l'Ancien Testament. Il y a des sauves. Par exemple, le temps pascal, c'est toujours les Actes des Apôtres. Parce qu'on est vraiment dans le temps de Pâques. Mais elle est toujours de l'Ancien Testament et on ne l'a pas choisi au hasard. C'est pas le type qui a préparé les textes et puis qui a ouvert la Bible au hasard. Tu dis, oh, bah, j'aime bien celui-là. Oh, bah, moi, j'aime pas trop. Bah, on va en choisir un autre. Ah, bah, celui-ci, il est bien. Bon, maintenant. En fait, il y a un sens. C'est que la première lecture, elle annonce toujours l'Évangile. L'Évangile, je vais pas dire que c'est dans le Nouveau Testament, c'est évident, parce que l'Évangile, c'est le cœur du Nouveau Testament. Mais je mets quand même, au cas où il y a un petit doute. On va toujours de l'Ancien vers le Nouveau. Quand on est rentré dans le Nouveau, on ne vient pas dans l'Ancien. Parce que l'Ancien prépare le Nouveau, et le Nouveau accomplit l'Ancien. Alors, donc, avant Jésus, ça prépare Jésus, et Jésus vient accomplir ce qu'il a précédé. Le psaume, il est toujours... Il est toujours une réponse à la première lecture. Donc, c'est toujours intéressant quand on lit les textes de dire pourquoi est-ce qu'il y a ce psaume ? En quoi est-ce que ça entre en écho ? Vous voyez ça ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce psaume-là ? Et puis, l'évangile, lui, bah, il a quel. Comment est-ce qu'on choisit ? En fait, au cours de l'année, vraiment du temps ordinaire, c'est plus simple parce qu'après, il n'y a pas d'exception. Au cours de l'année, eh bien, en fait, on lit l'évangile selon saint Matthieu ou l'évangile selon saint Luc. Ou l'évangile selon saint Marc. Donc on lit Matthieu l'année A, Marc l'année B et Luc l'année C. Là pour le coup c'est vraiment arbitraire. Donc il y a l'année A, B, C. Et on lit l'évangile, c'est-à-dire de A à Z, c'est-à-dire un petit morceau tous les jours, comme il y a 34 dimanches du temps ordinaire. Et là on a 34 extraits de l'évangile qui nous permettent d'avoir une lecture continue de l'évangile de dimanche en dimanche. Donc tu peux dire, alors, aujourd'hui, on a ça. La semaine dernière, c'était quoi déjà ? Tu vas voir qu'en fait, les références pour le temps. Ça, c'est bien pour le temps ordinaire. Là, on est encore en prolongement du temps pascal. Mais c'est vraiment ce qui fonctionne au moins les deux tiers de l'année. La deuxième lecture, c'est la même chose que l'évangile. Il y a une lecture continue d'un livre du Nouveau Testament. Donc, c'est toujours le Nouveau Testament. Mais il y a une lecture continue. Alors, parfois, à coup de chance, il y a un rapport avec le reste. Puis parfois, il n'y a pas trop de rapport. Parce que, vous voyez, c'est un livre qu'on lit en continu. Ça enrichit aussi notre connaissance de la Bible. Ça va ? Pas trop compliqué, notre affaire ? Super. Alors, le dimanche, évidemment, enfin, en semaine, il n'y a pas de deuxième lecture. Voilà. Il n'y a pas non plus le credo ni la prière universelle. L'Alléluia, le temps de Pâques, il est remplacé par une acclamation à la parole. Alors, l'assemblée s'assoit. Alors, s'asseoir, c'est une prière. C'est une attitude de prière. En fait, c'est une prière. Quand je suis assis, mon corps prie déjà. Quand je suis debout, mon corps prie. Quand je suis à genoux, mon corps prie. Et donc, je prie avec mon corps parce que je suis le corps que j'ai. Et donc, alors, il y a plusieurs manières de se mettre assis. On peut se mettre assis de manière un peu nonchalante, ou un peu raide, ou un peu inconfortable. On peut aussi bien s'asseoir. Il y a quelque chose de digne et de simple. Et pour être disponible intérieurement.
Alors, si tu aimes bien les piliers et que tu te mets toujours derrière le pilier, tu peux. C'est peut-être pas ça qui va t'aider le mieux à participer. Voilà. La première lecture, vous voyez la personne s'est inclinée devant l'autel. Et donc, elle va proclamer la première lecture, auquel va répondre le psaume. Puis vient la deuxième lecture. On n'est pas obligé d'enchaîner rapidement. Non, on peut. Prenons le temps. Vous voyez, il y a un rythme. Parfois, il y a des blancs dans la liturgie. Les blancs, c'est qu'il y a un truc qui devrait se passer qui ne se passe pas. Bon, ça nous fait perdre le rythme. Mais il peut y avoir des temps de silence et de respiration. Vous voyez, c'est un autre moment où on ne fait rien. Mais dans un premier cas, on ne fait rien parce qu'on se demande ce qui se passe. Et dans l'autre, on prend le temps d'accueillir la parole, de la laisser résonner en nous. D'où l'intérêt de l'avoir lu avant, parce que si on n'a pas été attentif pendant, ça permet de nous en ressouvenir. Ah oui, c'est vrai, ça disait quoi la lecture? Ah oui, je m'en souviens. Bon. Et ensuite, l'acclamation, l'Alléluia. Le dialogue, on avait déjà trouvé ce dialogue, on va le retrouver encore deux autres fois, chacune des quatre parties. Le Seigneur soit avec vous, à laquelle l'Assemblée répond, et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, ou saint Marc, ou saint Jean, ou saint Matthieu, puisque vous savez qu'il y a quatre évangiles. Saint-Exupéry, c'est très bien aussi. Il y a des textes de la littérature contemporaine ou ancienne qui sont littérairement même plus intéressants que les textes de la Bible. Et parfois, on a pu être tenté à un moment de se dire, mais en fait, ces vieux textes, ça ne nous parle pas beaucoup, puis il y a le Petit Prince, c'est tellement joli, cette histoire. Donc, moi, j'aime bien le Petit Prince, ça se passe à la question. Mais en fait, même la plus belle des paroles humaines ne vaudra jamais une virgule de l'évangile, parce que c'est une parole qui est vivante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand elle est proclamée. Et ensuite, on fait le triple signe de croix, gloire à toi Seigneur, le signe de croix sur notre front, pour comprendre, sur notre lèvre, pour proclamer, et sur notre cœur, pour qu'elle nous aide à aimer. Est-ce qu'il y a une petite parole à dire à voix basse à ce moment-là? Non. Si tu as envie de dire une petite parole, tu peux, mais il y a un geste sans parole. Ensuite, le prêtre va proclamer l'évangile. C'est toujours le prêtre. On se met debout à l'évangile parce que nous écoutons le Christ ressuscité. Se mettre debout, c'est une prière. Je vous avais dit qu'à s'asseoir, c'est une prière. Se mettre debout, vous voyez, c'est je ressuscite. En grec, il s'est relevé d'entre les morts. Il s'est mis debout. Il était allongé, il était mort et il s'est mis debout. Donc, on acclame le Christ ressuscité. Il y a un autre moment pendant la messe où on va se mettre debout pour acclamer le Christ ressuscité. Voilà. J'espère bien aller suffisamment vite pour pouvoir vous en parler. Et donc, on acclame le Christ ressuscité et c'est toujours le prêtre qui proclame l'évangile. Et à la fin de l'évangile, il fait un truc incroyable. Il monte un bouquin en disant « Acclamez la parole ». Et nous acclamons une personne. On passe du texte écrit à la parole proclamée, qui est une rencontre avec la personne du Christ, la personne du Verbe. Le Verbe, la parole s'est faite chair. Et donc, c'est ça ce qui se passe dans la liturgie. Nous passons du texte écrit à la parole proclamée, qui nous fait rencontrer une personne. Et donc, la messe, c'est un sacrement d'amour où nous le rencontrons. Ensemble, nous l'écoutons ensemble et nous l'annonçons ensemble. Louange à toi Seigneur Jésus. Et le prêtre va embrasser l'évangile avec de nouveau une petite prière secrète, que ce saint évangile efface mes péchés. De nouveau, la conscience de la purification. Voilà, comme Moïse qui se dit « Je suis un homme aux lèvres impures », alors un ange va prendre un charbon, l'appliquer sur les lèvres de Moïse, d'Isaïe, dans le temple, Isaïe 6, et brûler ses lèvres pour les purifier, pour qu'ils puissent proclamer la parole. Et donc si un jour vous découvrez qu'en fait le prêtre, eh bien, il est pécheur comme vous, ça ne doit pas vous scandaliser. Hein. Parce qu'en fait, il était pécheur avant d'être prêtre, et puis il l'est après. Hein. C'est pas un sacrement qui enlève les péchés, le sacrement de l'ordre. Oui. C'est un sacrement qui unit à Jésus, Christ tête, mais ça n'empêche pas que l'évangile ne cache pas les pauvretés de Pierre et des autres apôtres. Oui. Parfois, il y a une espèce d'immaturité, on projette un idéal de perfection qui écrase le prêtre et qui nous écrase nous-mêmes. Et puis le jour où cet idéal, qui est une belle bulle, explose, eh bien, en fait, nous avons l'impression d'être trahis. On y passe tous un peu, parce qu'il y a toujours des projections. Vous voyez, mais il y a un moment, il y a aussi une maturité qui fait qu'on reconnaît que, bah, en fait, ce n'est pas sa faute à lui s'il est appelé à être prêtre. Il n'y peut rien. Moi, je n'y peux rien si je suis prêtre. Enfin, je n'y peux rien. J'y peux parce que j'ai répondu. Mais je n'ai pas choisi d'être appelé. Moi, j'aurais été Dieu, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Enfin, simplement, il me demande. Ah, moi, je dis oui. Mais en fait, j'y peux rien. Vous voyez, je ne suis pas meilleur que vous. Donc, la conscience d'être purifié. Et l'homélie. Voilà. Le mot homélie, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le texte des disciples d'Emmaüs. Sur le chemin, ils discutaient l'un avec l'autre à propos de ce qui s'était passé. Donc, c'est le mot homélie. Voilà. Donc, c'est cet entretien. Alors, parfois, le prêtre est inspiré. Parfois, il ne l'est pas. Il peut être embêtant, c'est mal construit, c'est un peu long, c'est un peu triste, c'est un peu intellectuel ou c'est trop trivial. Bon, bah, toi, essaye de faire un jour une homélie de 5 minutes, puis tu vas voir qu'en fait, c'est très clair dans ta tête, mais enfin, quand il s'agit de parler, tu vas voir qu'au bout de... assez rapidement, ça va être compliqué. Donc en fait, c'est un exercice qui n'est pas facile, qui demande de se préparer, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est le boulot du prêtre. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu me dit à travers ce que dit le prêtre. Si le prêtre était brillant et que la seule chose que je retiens, c'est que c'était très brillant, ça n'a pas encore été fécond. La fécondité de l'homélie, c'est ce que Dieu va faire à travers cette parole-là. Et c'est ça qui est intéressant. Nous pouvons avoir une manière mondaine d'écouter l'homélie, qui est de nous intéresser à ce qui apparaît, et non pas à ce que le Seigneur est en train de me dire, de ce qu'il est en train de faire à travers les paroles que j'ai entendues et l'homélie. Parce que le Seigneur peut parler par l'homélie. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup écouté les homélies avant d'être prêtre. Et une fois que je suis devenu prêtre, je me suis rendu compte que les gens les écoutaient. Alors, du coup, je me suis dit, oups, il faut que j'écoute les homélies des autres pour savoir ce que j'ai raconté. Bon. L'assemblée écoute et médite, être assis, position de la prière. Et ensuite, va répondre à ce qui a été entendu en exprimant la foi. Voilà, le Seigneur me parle, et bien moi, je vais lui dire que je crois. Ce qu'il m'a dit, j'y crois. Voilà. Et donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, voilà, qui reprend les promesses baptismales. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique? Je crois. C'est l'engagement que tu as pris le jour de ton baptême. Ou que ton parrain et ta marraine et tes parents ont pris en ton nom si tu étais trop petit. Moi, j'avais un jour, je n'ai pas dit grand-chose. Bon. Mais après, j'ai fait ma profession de foi, où j'ai repris à mon propre compte ces promesses que je vais renouveler avec mes frères et sœurs. En grec, ce n'est pas « je crois », c'est « pistomen ». Pistomen, pas besoin de vous le dire, que ça veut dire « nous croyons ». Et en fait, notre « je crois », il s'inscrit dans un « nous croyons ». Et notre « nous croyons », il s'exprime de manière personnelle. Vous voyez, c'est toujours unir les deux dimensions. Une vision trop intimiste de la messe, trop solitaire et individuelle, c'est pas complètement rentré dans le mystère de la messe. Une dimension trop collective, mais où on perd l'intériorisation et la participation personnelle, eh ben, on passe aussi à côté de quelque chose. Il faut bien unir les deux dimensions. Ensuite vient la prière universelle, où nous allons prier. Souvent, il y a quatre intentions. On prie pour l'Église, pour le monde, pour les personnes qui souffrent et pour l'Assemblée présente. Seigneur, nous te prions pour le pape qui se prépare à aller à Lisbonne et qui est quand même un petit peu malade en ce moment. Nous te prions pour le monde, particulièrement pour la guerre en Ukraine et les autres pays où il y a la guerre. Nous te prions, Seigneur, pour les gens qui sont seuls. Et puis, nous te prions les uns pour les autres à l'occasion de ces rencontres de Paray-le-Monial. Bref, la première lecture, le psaume. La deuxième lecture, l'acclamation de l'Évangile. Alléluia habituellement. L'Évangile, l'homélie, le « Je crois en Dieu », la prière universelle. Ça va? Et on rentre dans la liturgie de la parole. La liturgie de l'Eucharistie. Voilà. Donc, il y a les pèlerins d'Emmaüs qui cheminent avec Jésus et qui l'écoutent. Il va tout raconter des prophètes et pour lui dire pourquoi est-ce qu'il devait mourir et ressusciter. Ben, voilà, c'est ce qu'on a vécu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et puis ensuite, il s'arrête et on partage le repas. Il y a quatre verbes que l'on retrouve dans les pèlerins d'Emmaüs, mais que l'on retrouvait déjà à la multiplication des pains, que l'on retrouvera à l'institution de l'Eucharistie, que l'on retrouve à d'autres moments. c'est les quatre verbes fondamentaux qui vont structurer la liturgie de l'Eucharistie à toutes les époques, toutes les langues, tous les rites, quelle que soit la culture et l'époque. Il y a toujours ces quatre actions qui correspondent à ces quatre verbes.
Les quatre verbes, vous les connaissez. C'est en fait le résumé de la vie chrétienne. Parce que finalement, c'est quoi la vie chrétienne? C'est le Seigneur qui nous prend, qui nous délivre, qui nous rompt et qui nous donne. Ce qui se vit dans l'Eucharistie, c'est le mystère le plus profond de notre vie. Je ne vais pas y revenir parce que je l'ai dit, sinon on peut y passer plusieurs dizaines d'heures. Mais il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Ce qui correspond aux quatre parties structurantes de la liturgie de l'Eucharistie, c'est l'offertoire. On va préparer le pain et le vin et les apporter. La bénédiction, c'est la consécration. Il le rompit, c'est la fraction du pain pendant l'agneau de Dieu. Et il le leur donna, c'est la communion. Donc, si vous allez en Grèce au Xe siècle, vous ne comprendrez probablement pas grand-chose. En même temps, vous n'allez pas aller au Xe siècle en Grèce, mais si vous y alliez, et vous verriez qu'en fait, la liturgie, elle reprend déjà ces quatre parties structurantes.
Après, il y a plein de choses qui changent, mais au moins, ça ne change pas. Il y a la quête. Voilà. C'est une manière de me donner... La quête est une prière. En fait, tout est une prière. Vous allez dire, ah non, c'est très matériel, donc ça ne peut pas être spirituel. Mais malheureux, si tu es chrétien, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel est spirituel, tout ce qui est spirituel est matériel. Et donc, à travers l'argent que tu donnes, c'est tout ce que tu as que tu donnes. Et à travers tout ce que tu as, c'est tout ce que tu es que tu donnes. En fait, c'est une manière de se donner que de donner à la quête. Et puis de participer aussi à la vie commune, puisque quand il y a une vie commune, qui est la vie de la communauté chrétienne, ben forcément, on met ensemble les choses. La procession des offrandes, souvent peu soulignée, mais je vois qu'il y a notre sœur d'Afrique, je ne sais pas si vous avez, les processions en Afrique, c'est peut-être autre chose. Moi, j'étais au Brésil, hein, parfois les processions, c'était une catéchèse. Ouais, elle pouvait durer 10 minutes, parce qu'il y avait tout un enseignement. Mais c'est la richesse de la liturgie où on apporte aussi notre vie, et ça a beaucoup de sens. Alors nous, Européens, on regarde ça un petit peu amusé parce qu'on se dit, ouais, bon, bah, sauf qu'on n'a rien compris, ils ont tout compris. Bref, la procession des offrandes. Voilà, on apporte le pain et le vin. On n'apporte pas du blé et du jus de raisin. On apporte du pain et du vin. Le blé, il n'y a que le travail de Dieu. Le pain, c'est le travail de Dieu et le travail des hommes. Dans le jus de raisin, ou une grappe de raisin, il n'y a que le travail de Dieu. Alors que dans le vin, il y a aussi le travail de l'homme. Vous voyez, en fait, c'est les deux. Le prêtre a cette prière juive, alors qui est en fait que Jésus n'a pas pu prier parce que c'est une prière juive de quelques siècles après Jésus-Christ. Mais ça permet de montrer l'enracinement de la liturgie chrétienne dans la liturgie juive. Si vous regardez le repas du Seder pascal, c'est-à-dire le repas pascal de la Pâque juive, vous allez dire, ah ben dis donc, ça ressemble sacrément à l'Eucharistie. Ben, c'est normal parce que Jésus a institué l'Eucharistie pendant le repas juif de la Pâque. Et donc c'est vraiment nos racines. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, donc le Créateur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, vous voyez, c'est les deux, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Vous allez dire, oh, le Père Étienne est en train de nous recycler un document d'avant la nouvelle traduction. Exactement. Je n'ai pas eu le temps de retoucher la nouvelle traduction qui est en fait légèrement différente. Mais je compte sur votre compréhension. Et nous répondons, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ensuite, le prêtre mélange l'eau et le vin. À l'origine, c'était un geste pratique. C'était qu'en fait, c'était pas du vin comme on le connaît aujourd'hui, c'était du mou. Et donc, fallait un peu comme du sirop, fallait le diluer. Et donc, on mettait de l'eau pour passer du... C'est comme du sirop, quoi. Vous voyez, on ne boit pas le sirop, ce n'est pas très bon le sirop. On met du sirop avec de l'eau. Comme ça, le sirop, ça devient bon. Donc, c'est un peu la même chose. Sauf qu'avec ce geste pratique, on a adjoint une parole, comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc, comme cette eau se met le vin, que notre humanité soit unie à la divinité de celui donc qui était Dieu et qui a pris notre humanité pour nous enrichir de sa divinité. Donc ça dit tout ça en une petite phrase. Et la phrase a été tellement belle qu'une fois qu'il n'y a plus eu besoin de mettre de petites gouttes dans le vin parce que le vin était devenu liquide, bah, on a gardé la petite phrase. Et du coup, on a gardé le geste. Voilà. Et, Eh bien non, ce n'est pas du tout dommage. Ça montre comment la liturgie se construit. Vous voyez, il y a quelque chose de matériel qui prend un sens spirituel. Et même si le matériel n'est plus là, parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de mettre de l'eau, eh bien le spirituel demeure et donc ce geste, il a du sens. C'est aussi une manière, comme je l'ai dit hier, d'unir l'eau et le sang qui jaillit du cœur de Jésus. Puisque du cœur de Jésus ne jaillit pas seulement du sang, mais du sang et de l'eau. Voilà, donc c'est une manière de le rappeler. Prière de nouveau de bénédiction. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Donc le travail de Dieu, le travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. De nouveau, la traduction d'avant 2021. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que l'on peut dire ou pas. Le prêtre peut le dire à voix haute ou à voix basse. Voilà. Donc s'il le dit à voix basse, il ne faut pas aller le voir à la fin de la messe en disant « Ouais, c'est pas juste, vous dites les choses à voix basse, vous devriez le dire à voix haute. » Non, c'est possible de faire soit l'un, soit l'autre. Et donc, le prêtre fait soit l'un, soit l'autre. Ouais. Il y a des choses qui sont obligatoires, puis il y en a, on a le choix. Ben là, on a le choix. Dans l'ancienne traduction française, donc maintenant vous découvrez, vous avez découvert qu'en fait il n'y avait que les Français qui utilisaient cette traduction et que quand il a fallu retraduire le missel de 2000, 20 ans après, on a réussi à le faire et donc on a traduit le missel et qu'on est revenu sur cette, non pas cette traduction, mais cette substitution ou à la prière prévue par le missel en latin, on avait mis cette prière qui est quand même magnifique. C'est pour ça que même dans la nouvelle traduction, on a gardé encore cette possibilité de dire ça. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde, ce qui est magnifique. Pourquoi vais-je à la messe? Pour deux choses. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je n'y vais pas parce que ça me fait du bien ou parce que j'ai envie ou parce que j'ai le moral ou parce que j'ai rien d'autre à faire. Non, j'y vais pour lui et pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ouais, ça me décentre de moi-même. Ce qui fait que le jour où je n'ai pas envie d'aller à la messe, ben en fait, je vais y aller quand même, puisque j'y vais pour sa gloire et le salut du monde. Et le monde, généralement, il a toujours besoin d'être sauvé. Donc vous dites, oh là là, mais alors, vu tout ce qui se passe, il y en a qui disent, oh là là, mais avec la guerre, du coup, je n'ai pas le moral, donc je ne vais pas à la messe. Malheureux. Mais pas du tout. Vu tout ce qui se passe, eh bien en fait, comme je ne peux rien faire, ce qui n'est pas complètement vrai, mais je vais aller prier pour les personnes, puisque... et demander qu'ils viennent consoler, guérir et donner le désir de paix aux belligérants. Ensuite vient la prière sur les offrandes, et le prêtre va commencer le dialogue de la préface, donc c'est le même dialogue, je vous l'avais déjà dit qu'on l'avait rencontré deux fois, on le rencontre une troisième fois, le Seigneur soit avec vous, tout le monde répond, et avec votre esprit, le dialogue se poursuit, donc c'est le grand dialogue de la préface, vous voyez une liturgie construite sur un dialogue, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Élevons notre cœur, c'est aussi une manière de dire, allez, on se réveille là, pour ceux qui étaient en train de dormir. Bon, sauf que maintenant, les gens ne dorment plus à la messe, mais à l'époque, les gens dormaient à la messe, c'est pour ça qu'il y avait sum sum camda, c'est-à-dire que vos cœurs se secouent un petit peu les puces. Donc, la préface, ben, c'est comme la préface d'un livre. C'est ce qu'il y a au début du livre pour l'introduire. Et puis, ce qui va en dire toute la beauté. Donc, la préface, c'est ce chant ou cette prière qui suit ce dialogue et qui va dire pourquoi est-ce que Dieu est vraiment incroyable, quoi. Et les merveilles que Dieu a fait. On chante la gloire de Dieu, de nouveau la louange. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a réussi à faire de la messe quelque chose de triste. Ou que les gens pensent que la messe, c'est triste. C'est quand même incroyable. Je pense qu'ils ne sont jamais allés à la messe, parce que quand tu vas à la messe, on n'arrête pas de chanter la gloire de Dieu, alléluia, le psaume, le chant d'entrée, le gloire à Dieu, le sanctus, etc. En fait, on ne cesse de bénir Dieu, d'ailleurs. C'est assez étonnant comment est-ce qu'on pense avoir raison alors qu'on se trompe complètement. Bref, on chante ce chant d'Isaïe dans le temple de Jérusalem. Isaïe a une vision et les anges qui chantent « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Et donc, on reprend cette prière des anges, de l'Église du ciel, parce qu'au cours de l'Eucharistie, je ne sais pas si c'est le ciel, la terre qui monte au ciel, ou si c'est le ciel qui descend sur la terre, mais en fait, nous sommes profondément unis à l'Église du ciel. Et nous louons le Seigneur, parce qu'au ciel, que fera-t-on? Eh bien, on célébrera les louanges du Seigneur. Augustin parle d'un Alléluia éternel. Et donc, la messe, c'est qu'on s'entraîne Voyez, on prend part à la cour céleste avec tous les anges et tous les saints, et déjà on loue le Seigneur, on lui rend grâce, voilà, parce qu'il se donne à nous et nous à lui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le psaume 117. Donc, de nouveau, si on enlevait de la messe toutes les paroles qui sont tirées d'Écriture, eh ben, la messe serait beaucoup plus courte. Ben, on n'a plus grand-chose à dire, parce que tout est tissé de l'Écriture. En fait, la messe, c'est l'Écriture sainte mise en liturgie. Ensuite, le prêtre va invoquer l'Esprit Saint. Donc, invocare, c'est appeler sur. Voilà. En grec, c'est épiclèse. Bon, on est moins familier du grec. Donc, l'invocation de l'Esprit Saint, l'épiclèse, qui est l'invocation de l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va transformer du pain et du vin en corps et sang du Seigneur. Il y aura une deuxième invocation de l'Esprit Saint. Je ne vous dis pas encore sur qui, mais qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite vient le récit. Donc, il y a un récit dans la liturgie. Il y a un moment où on raconte une histoire. Vous voyez, ce récit de l'institution, il s'insère à ce moment-là. Au moment d'être livré, il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est le corps du Christ. » Non, ceci est mon corps livré pour vous. À ce moment-là, quand le prêtre parle, c'est Jésus qui parle à travers lui. Quand le prêtre dit « Tu veux bien te taire, s'il te plaît, tu parles un peu fort ?» Ce n'est pas nécessairement Jésus qui parle, parce que le prêtre, il est aussi blessé, il est blessant, il est casse-pieds, et puis parfois, il en a marre aussi. Donc on n'est pas toujours sûr que dès que le prêtre ouvre la bouche, ça vienne de Dieu. Par contre, là, on sait que quand il parle, c'est Jésus qui parle à travers lui. Que quand il prend l'hostie en main, ses mains sont les mains de Jésus. En dehors de la messe, on espère que oui, mais pas toujours. Mais là, il y a vraiment la... Parce que Jésus, il a promis. Il prit le pain, ceci est mon corps. Ce qui explique aussi, c'est le sens le plus profond du célibat, c'est que de dire tous les jours, ceci est mon corps, eh bien, le prêtre, il rentre aussi avec son corps, et que son corps, il est aussi consacré. À force de consacrer, il est lui-même consacré. Il y a quelque chose qui appartient à Dieu, en fait. Le célibat exprime cela de manière la plus intense. Il y a un lien intime entre le célibat et l'Eucharistie. Il n'est pas nécessaire d'être célibataire pour être prêtre. Dans l'Église, il y a beaucoup de prêtres qui sont mariés dans les autres rites que le rite latin. Et puis, il y a d'autres chrétiens, comme les orthodoxes, qui ont aussi un clergé marié ou pas. Dans l'Église latine, il n'y a que le clergé célibataire, parce que nous avons, par la grâce de Dieu, parce que Dieu sait combien c'est difficile, gardé ce trésor du célibat pour consacrer le corps en lien avec l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire que les prêtres le vivent et le vivent bien. C'est un peu comme le mariage. On essaye tous de le vivre et de vivre au maximum la fidélité. Et puis, voilà, le Seigneur, il a aussi appelé des pécheurs. Et donc, si un jour je suis témoin de la faiblesse d'un prêtre, eh bien, je dis, Seigneur, aie pitié de lui, comme tu as eu pitié de Saint-Pierre. Voilà. Plutôt que de lui lancer la pierre, comme à la femme adultère. Prenez et mangez-en tous, ceci mon corps livré pour vous. Et le prêtre élève le corps. À partir du XIIe siècle, les chrétiens vont demander que l'on élève le corps pour le voir. Voilà. C'est de là que vient l'adoration aussi. C'est en Belgique, avec la fête de Saint-Sacrement, que va se mettre en place l'adoration et puis cette élévation, d'autant plus que le prêtre célébrait dos au peuple. Donc s'il célèbre avec les gens dans le dos, en fait les gens ne voient pas. Le seul moyen, c'est qu'il élève pour que les gens qui sont derrière lui puissent le voir. On adore en silence. S'il est possible de se mettre à genoux, parce qu'il n'y a pas de blocage, alors l'Église nous demande de nous mettre à genoux. Il peut y avoir deux types de blocages. Il y a le blocage que connaissent nos anciens, parce que les genoux sont coincés et qu'ils n'arrivent plus à se mettre à genoux. Dans ce cas, mettez-vous à genoux intérieurement. Et puis, il peut y avoir un blocage émotionnel ou psychologique lié à plein de choses qui ne nous revient pas ici d'identifier, mais on sait que parfois, le fait de se mettre à genoux en France peut être très mal vécu, parce que ça associe à des tas de choses. Des tas de pays ne vivent pas du tout ça, mais nous, on est un peu comme ça. Chacun ses richesses et ses fragilités. Bon, si tu n'arrives pas à mettre à genoux, ne t'y mets pas. Mais sache que c'est ce que l'Église te demande. Et si un jour tu pouvais dépasser tes réticences personnelles pour le faire, eh bien, ça t'aidera à avancer dans la foi. Il est ici celui qui nous aime tant, dit Saint Jean-Marie Vianney. Comment ne l'aimerions-nous pas ? De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le récit, on recommence le récit. En te rendant grâce, il l'a béni. Alors, on a changé ça parce qu'en fait, c'est pas il l'a béni. Jésus ne bénit pas la coupe, Jésus bénit le Père. Donc, il dit la bénédiction. C'est pour ça qu'il y a un changement dedans. Voilà. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Et cette dernière phrase, qui est intégrée maintenant dans la consécration, c'est en même temps l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. C'est-à-dire que par cette phrase, Jésus dit aux apôtres, ce que je fais, faites-le vous aussi. Et donc, il leur donne, il institue l'Eucharistie et puis il institue les prêtres. En fait, c'est deux sacrements qui sont institués par la même parole. Et donc, c'est pour ça que le récit termine par cette parole de Jésus. Si vous regardez les évangiles, vous verrez qu'en fait, Jésus ne dit pas ça. En fait, ces textes-là, c'est recomposé à partir de ce qu'il y a dans Saint Jean, pas dans Saint Jean parce que ça n'y est pas, Matthieu, Marc, Luc et Saint Pierre dans la première épître aux Corinthiens. Donc, la liturgie est un acte d'interprétation aussi de l'écriture. Et puis, les quatre récits de l'institution sont légèrement différents. Oui, mais la liturgie, l'Église va dans sa sagesse et avec le temps qui passe, reprendre des formulations. Voilà. Et donc, c'est tissé de l'écriture, mais ce n'est pas tissé comme une citation littérale, mais comme un tissage de plusieurs citations. Donc, on prend un petit bout de Saint Paul, un petit bout de Saint Marc. Voilà. Et puis, il y a ce récit de l'institution. Autrement dit, c'est vivant. Et le prêtre élève le corps, le sang du Christ, pour que nous adorions en silence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'élève. Donc, si toi, tu abaisses la tête à ce moment-là, tu dis, bah oui, puisqu'il l'élève, bah, je vais l'adorer. Oui, tu l'adores en le regardant. Et ensuite, tu vas l'adorer en te prosternant avec le prêtre, qui lui aussi va se mettre à genoux à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que toi, tu t'abaisses. Mais avant, tu le regardes, puisque c'est pour ça que le prêtre le montre. Je dis ça parce que parfois, il y a des petits décalages. Oui. On monte et puis tout le monde baisse la tête. Dis, ah, ça va quoi ? Et le prêtre ne peut pas dire autre chose que « il est grand le mystère de la foi ». Le mot mystère, qui est un mot grec, qui se traduit en latin par sacramentum, le sacrement. Le mystère, ce n'est pas le truc où il n'y a rien à comprendre. Il est grand mystère de la foi, ça ne veut pas dire « Oh, bah, tout ça, c'est bien compliqué, je ne cherche pas trop à comprendre. » Non, c'est-à-dire que tu n'auras jamais fini de comprendre le mystère de la messe, ou plutôt d'être compris par le mystère de la messe, d'entrer dans ce mystère, parce que plus tu vas y participer et plus tu vas comprendre que c'est grand. D'ailleurs, j'imagine que depuis que vous m'écoutez, vous avez compris, j'espère, un certain nombre de choses. Et en fait, vous découvrez que c'est encore plus grand que ce que vous pensiez. Vous voyez, ça dépasse. Il est grand, le mystère de la foi. C'est l'avantage, c'est qu'on peut aller à la messe tous les jours sans jamais s'en lasser. Moi, je vais à la messe depuis tous les jours depuis 1995, donc ça va bientôt faire 30 ans. Eh bien, en fait, ça, on ne s'en lasse pas. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ça, c'est le kérigme, c'est le cœur de la foi par lequel on exprime, on s'adresse à Jésus, alors qu'habituellement on s'adresse au Père, et on proclame. Alors maintenant, on a changé, c'est plus proclamer, parce qu'en fait, proclamer la mort, ça ne va pas, on proclame la résurrection. On annonce la mort et on proclame la résurrection. Donc il y a des changements de verbes. Mais c'est bien, ça revient au latin qui en fait avait plus raison que les Français qui avaient pensé traduire de leur manière. Voilà. Comme quoi, parfois on pense bien faire et puis on se trompe un peu. Donc, nous proclamons ta mort et ta résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. Voilà, Seigneur Jésus. Ça, c'est le cœur de notre foi. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons en la mort, en la résurrection et que nous attendons le retour dans la gloire de Jésus. J'avais parlé d'une première invocation de l'Esprit-Saint, épiclèse, invocation de l'Esprit-Saint. Là, il y a la deuxième invocation, la deuxième épiclèse, non pas sur le pauvre pain et le pauvre vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, mais sur le pauvre peuple de Dieu, c'est-à-dire nous tous. Ouais, invocation sur l'Assemblée, pour que l'Assemblée devienne aussi le corps du Christ. Parce qu'en fait, l'Esprit Saint transforme le pauvre pain et le pauvre vin en corps du Christ, la pauvre Assemblée, pauvres hommes et pauvres femmes, en corps du Christ. C'est le même Esprit Saint qui en fait la même chose. Et comment ? Ben, c'est en recevant le corps du Christ que nous deviendrons le corps du Christ. Nous deviendrons ce que nous recevons. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Donc l'Eucharistie fait l'Église, c'est-à-dire que c'est en recevant l'Eucharistie que nous devenons frères et sœurs et que nous formons un seul peuple. Ensuite, le prêtre va prier pour l'Église, le pape, les évêques, toujours en communion avec le pape et les évêques. Si tu vas à une messe où on ne prie pas pour le pape et l'évêque du lieu, cette messe n'est pas catholique, elle n'est pas universelle. Par exemple, il y a des chrétiens qui se retrouvent tous les dimanches ici à Paray-le-Monial, voilà, qui sont liés à la fraternité Saint-Pédis sur la route de Charolles, eh bien, ils ne célèbrent pas en communion avec le pape et l'évêque. La messe est valide, le Seigneur est vraiment présent, mais il n'y a pas la communion de l'Église. Et donc, je ne peux pas communier au cours de cette messe, parce que s'il n'y a pas la communion avec l'Église, je ne peux pas avoir la communion au corps du Christ. Vous voyez, ce ne serait pas vrai. Et donc, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, je peux prier pour eux, je peux prier avec eux, et je souffre que la communion soit brisée. Et je vais prier pour que la communion soit un jour rétablie avec nos frères intégristes. Ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, l'Église me demande de ne pas communier lorsque je vais à la messe à Saint-Pédis. Et c'est la même chose, de manière encore plus prononcée, évidemment, avec le culte protestant. Il y a des éléments de communion, certes, mais il n'y a pas encore la pleine communion. Et donc, si je vais à une scène protestante, je peux prier avec mes frères, je peux prier pour mes frères, je peux demander qu'ils prient pour moi, je peux me laisser enseigner par l'Esprit Saint à travers eux, mais je ne peux pas communier parce que ce serait mentir que d'exprimer une communion qui n'existe pas, qui n'existe pas, qui n'est pas encore pleine. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'elle n'est pas encore pleine. L'Assemblée s'unit à la prière du prêtre en silence, voilà, donc pendant cette prière, jusqu'à la conclusion de la prière eucharistique, qui est la doxologie. Doxo en grec, c'est la gloire, logie, c'est la parole, donc la parole de gloire, on va glorifier Dieu, par lui, avec lui et en lui, on parle bien de Jésus, donc par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, donc toute la messe s'adresse au Père. Dans l'unité du Saint-Esprit, on retrouve la mention de la Trinité. Tout honneur et toute gloire, la louange pour les siècles des siècles. Et là, tout le monde va dire, tout ce que nous venons d'entendre, en fait, nous y entrons et nous prions, nous aussi, nous prenons part. Et donc, nous signons, nous ratifions, nous croyons, c'est-à-dire que toute l'Assemblée va dire Amen. Et cet Amen doit être Amen fort, c'est le plus fort de la messe. Vous voyez, il y a comme un sommet dans cette doxologie, c'est un peu le feu d'artifice final. À la fin, tout le monde applaudit, sauf que là, ce n'est pas un feu d'artifice, on n'applaudit pas, mais on monte vers le Père, où le prêtre va offrir Jésus au Père, dans l'Esprit Saint, et nous montons avec. Et nous entrons, nous participons, nous prenons part au sacrifice de Jésus au Père dans l'Esprit. Bref, la procession des offrandes, l'offertoire, la prière sur les offrandes, le début de la prière eucharistique, qu'on appelle la préface, l'invocation de l'Esprit Saint sur les offrandes, la consécration du corps puis du sang, la prière pour l'Église, les morts et les vivants, par lui, avec lui et en lui. Amen. Dernière partie, la communion. La nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang d'un Dieu. Ô belle nourriture, l'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise, il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Et donc, cette partie de la communion, je vous avais dit qu'il y avait deux parties principales, mais qu'il y en avait quand même une cinquième, qui est le rite de la communion, commence par le Notre Père. Jésus ne m'a pas appris la prière du Mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Mais Notre Père, donc en fait, il n'y en a qu'un, mais nous le prions ensemble. Même quand je prie tout seul, c'est toujours avec mes frères. C'est illusoire que de prétendre aller vers Dieu seul. Ouais. C'est les uns avec les autres. Donc, cette prière du Notre Père, voilà. Ensuite, le geste de la paix, où on va manifester notre communion fraternelle avant de communier au corps du Christ qui est l'Eucharistie. Nous allons exprimer notre communion fraternelle par le geste de paix, voilà, qui ne doit pas être un moyen de sortir de la prière. Ça, c'est un peu le problème du geste de paix. C'est qu'en fait, c'est le moment où il y a une espèce de brouhaha, tout le monde se fait la vie. Ah, t'es là, mais c'est incroyable, alors tu vas bien. Bon, ben, c'est vrai, t'as vu le match de foot hier soir, c'est quand même dingue. Bon, puis en fait, on a oublié, quoi. Donc, la paix, nous la recevons de lui et nous nous la donnons les uns aux autres. Et parfois, je ne suis pas en paix, mais c'est en donnant la paix que je n'ai pas que je la reçois. Ça, c'est le mystère des mains vides. Et donc, j'exprime la paix. Alors, si la personne qui est à côté de moi, elle ne me plaît pas, parce qu'elle a un âge ou une couleur de peau ou une attitude ou bien une sensibilité ecclésiale ou une appartenance ou je ne sais quoi. Eh bien, en fait, je vais dépasser mes réticences extérieures pour vivre la communion fraternelle. Voilà. Je dis ça parce que parfois, il y a des gens qui se font refuser la paix du Christ à cause de leur couleur de peau, à cause de telle ou telle discrimination. En fait, il n'y a pas de raison. Voilà. Évidemment, mais on a tous besoin de se convertir. C'est bien pour ça que nous sommes ici. Je vous avais parlé des quatre parties de l'Eucharistie. La fraction du pain, normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule hostie. Et manifester ainsi que nous formons un seul corps et nous prenons tous part au même corps pour former le même corps. Sauf que bah, quand il y a 200 personnes, c'est gentil, mais enfin, c'est un peu compliqué. Donc on a fait des petites hosties. Mais normalement, le sens de la fraction, c'est qu'il y a une seule hostie que l'on va rompre. Moi, j'aime bien quand il y a une petite dizaine de personnes à messe ou un peu moins, de prendre une hostie et puis de communier tous au même corps, ce qui va signifier ce que de toute façon, même avec les petites hosties, nous vivons, c'est-à-dire cette union au corps du Christ. La fraction du corps aussi symbolise la mort. Voilà. C'est pour ça qu'elle est accompagnée de la prière de l'agneau de Dieu, qui est une prière assez grave, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, les péchés du monde, donc depuis la nouvelle traduction c'est au pluriel, comme ça fait un an et demi je pense qu'on pourrait quand même s'y mettre, hein. Mais à un moment il faut rentrer dans la nouvelle prière, on ne va pas mettre 5 ans pour passer au pluriel. Voilà. Prends pitié de nous, de nouveau la demande de la purification, et puis toujours enraciné dans l'écriture, tout ça sont des expressions bibliques, évidemment je n'ai pas le temps d'en parler, en parlant d'expressions bibliques, il y a évidemment celle-ci, ouais, mais qui vient de l'Apocalypse, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, ça c'est Saint Jean, au début de l'évangile, Saint Jean Baptiste, au début de l'évangile selon Saint Jean. De nouveau, tout est tissé de l'écriture. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, de nouveau une parole de l'écriture. J'ai dit que si on enlevait toute l'écriture de la messe, il ne resterait plus grand-chose. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors qu'en fait, dans l'écriture, c'est le centurion qui demande la guérison de son serviteur. Vous voyez, il y a une réinterprétation de la parole, voilà, à chaque fois. Donc c'est en même temps, la parole, c'est l'écriture sainte, mais priée dans la foi de l'Église. Donc il y a quelque chose qui s'est réapproprié. Voilà. Ne dites pas que vous n'êtes pas digne, ce qui est vrai. C'est vrai, vous ne l'êtes pas, mais vous en avez besoin. Donc si tu te dis, oh là là, mais moi je ne peux pas les communier, parce que j'en suis pas digne. Alors soit, de fait, tu as vraiment besoin d'aller confessé, parce que ça fait quelques années que tu n'es pas confessé ou que tu n'as pas été à la messe, mais ne t'éloigne pas du médecin sous prétexte que tu es malade. Au contraire, rapproche-toi de lui. C'est en s'approchant de lui que tu trouveras la guérison. Si tu attends d'être guéri par toi-même pour t'approcher de lui, ben, ça ne peut pas être chrétien. Ça s'appelle vouloir se sauver par soi-même. C'est la grande tentation. Mais non, ma joie, c'est la joie d'être sauvé. Je n'en suis pas digne, mais j'ai besoin de toi. Le prêtre communie. On peut prier pour le prêtre, d'ailleurs, quand il communie. Je vous dis ça au cas où. Ensuite, les ministres de la communion. La communion, que l'on reçoit soit dans la main, soit dans la bouche. Comme je n'ai pas vraiment le temps, je ne dis pas comment on communie. Enfin, globalement, c'est toujours bien de pouvoir savoir comment on fait. Bon. Mais j'y reviens pas, j'ai pas le temps. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui. Ceux qui ne communient pas reçoivent la bénédiction, peuvent recevoir la bénédiction. Ce n'est pas prévu par le missel, mais c'est une pratique pastorale de plus en plus fréquente et qui est très belle. Ensuite, on prie en silence dans l'action de grâce. Jésus est là. Si seulement vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la plus heureuse du monde, au monde. Et la communion pour les malades. Rites finaux. Donc il y a un temps de silence où on va s'offrir au Seigneur et se recueillir. Et ensuite, il y a la prière après la communion, le temps d'annonce qui fait partie de la messe parce que c'est la vie de la communauté et que la communauté fait partie de la messe puisque justement l'Eucharistie forme la communauté et la communauté se réunit pour l'Eucharistie. Et ensuite, la bénédiction, la quatrième fois, le Seigneur soit avec vous. J'avais dit qu'il y avait 4 fois. De nouveau le dialogue avec la même réponse et avec votre esprit. Et la bénédiction que le prêtre donne, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et l'envoie dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Il y a d'autres formules depuis le nouveau missel. Et nous, de nouveau, nous rendons grâce à Dieu. Donc de nouveau, la louange appuyée sur les paroles de l'Écriture. Et là, eh bien, nous explosons dans un cri de joie et c'est le chant de sortie qui n'est pas prévu par le missel. Donc en fait, normalement, la sortie se fait en silence, mais on a pris l'habitude soit de prier la Vierge, soit de chanter dans la louange et accompagner la sortie. le prêtre vénère l'autel, sort dehors pour dire bonjour ou au revoir à tout le monde. Quand nous avons communié, si quelqu'un nous disait « Qu'emportez-vous dans votre maison ?», nous pourrions répondre « J'emporte le ciel ». Eh bien, c'est ce ciel que je vous propose d'aller maintenant accueillir, puisque nous avons la messe dans 14 minutes à la chapelle des Apparitions.